conférence d'aujourd'hui, elle est quand même importante du point de vue de la notion de surveillance, puisqu'on va aborder une dimension temporelle de la surveillance, qui est le fait de surveiller en continu ou de se surveiller dans la continuité du temps. Et je me rappelle que Armstrong, dans sa première séance, dans la première conférence qu'il avait faite, qu'il avait donnée ici au mois de janvier, il avait insisté sur cette dimension temporelle de la médecine de surveillance. La médecine antérieure était une médecine spatiale qui localisait les lésions, et la médecine de surveillance est une médecine qui se développe dans le temps. Donc je crois que ça va être le fait d'étudier la surveillance en continu, ça va être quelque chose d'important.
Et après, à l'issue des deux présentations, donc on aura une session de questions, réponses, environ 45 minutes aussi.
Voilà, c'est ça.
Anne-Sylvie, on va te laisser donc commencer cette séance et puis peut-être te présenter et de nous en dire plus sur Ranja, parce que je ne sais pas si
oui.
Tout le monde sache de quoi il retourne exactement.
D'accord. Alors d'abord, merci beaucoup pour cette invitation et puis bonjour à tous. Donc effectivement, ce n'est pas évident qu'il y ait des sociologues chez Orange Lab. En fait, on est dans un laboratoire de recherche plutôt en sciences humaines, mais multidisciplinaire, qui est issu en fait de l'époque où France Télécom était publique et avait des labos mix avec le CNRS sur la sociologie de la communication. Donc on est aujourd'hui les héritiers de cette tradition, et avec un laboratoire où il y a beaucoup de socio-économistes, il y a des gens qui travaillent plus sur les big data, hein, sur les traitements des données de téléphonie mobile et choses comme ça, donc avec des enjeux de géolocalisation. Les sujets se sont beaucoup diversifiés. Alors moi, plus spécifiquement, je viens d'une formation en ethnologie, et je mène des enquêtes qualitatives sur différents types d'usages, plutôt grand public, et surtout centré sur des questions d'intimité, de partage des outils, etc. Donc j'ai travaillé beaucoup sur le partage des outils dans l'espace domestique, le partage des fichiers, le partage des patrimoines photographiques, musicaux, choses comme ça. Et puis là, plus récemment, je me suis intéressée aux questions, au contraire, d'exportation, j'allais dire, de mise en visibilité dans l'espace public de choses plutôt intimes. D'où ce sujet sur les quantifications personnelles et le fait que certaines mises en chiffres de soi peuvent arriver dans l'espace public à travers des posts sur Facebook et compagnie. Donc voilà, pour recadrer un petit peu l'étude, elle s'était inscrite dans un projet qui était mené avec d'autres collègues. En gros, l'idée du projet, c'était d'étudier toutes les formes de numérisation et leurs incidences sur la société liées donc au développement de l'Internet et du fait que donc des pratiques très diversifiées donnent lieu facilement à des quantifications. Donc la métrique de soi, c'est un des lots d'un projet qui étudiait aussi des métriques d'ambiance, de partage autour des mesures de pollution, et puis des métriques de manière générale qui étaient de plus en plus produites par les internautes sur les produits, donc à des dimensions plus commerciales, sur les dispositifs de notes et avis. Donc voilà, le projet métrique de soit il prend place dans un cadre plus global qui a donné lieu à la publication d'un numéro de Réseau, la revue Réseau, qui s'appelle Algorithmes et Société, je crois, ou Politique des algorithmes, peut-être plutôt Politique des algorithmes, voilà. Donc voilà, pour cette introduction. Alors, l'enquête que je présente ici, parce qu'il s'agit donc des résultats d'une enquête qu'on a menée en 2011 au laboratoire, c'est une enquête plus spécifiquement sur l'émergence du mouvement du Quantified Self. Donc en 2011, naissait en France l'antenne parisienne, on va dire, du Quantified Self, qui est un mouvement initié aux États-Unis de connaissance de soi par les chiffres. Hein, donc c'est à l'initiative de deux anciens du magazine Wired, Kevin Kelly et Gary Wolf, une entreprise en fait de promotion des outils qui permettaient cette connaissance de soi par les chiffres. Et donc ils ont monté à travers un dispositif assez de communication assez ingénieux avec une sorte d'estampille Quantified Self, des antennes à Amsterdam, à Londres, à Paris, etc. Et donc naissait en 2011 l'antenne parisienne avec Emmanuel Gaden notamment. Et donc ce mouvement faisait parler de lui, et alors on a voulu en savoir plus sur quels étaient les usages derrière ces outils de Quantified Self. Donc on a fait un petit panorama des outils qui étaient utilisés par les gens qu'on a rencontrés à l'époque, et puis on a creusé sur ce que c'était que leur pratique de quantification et quel sens elles avaient. Donc voilà le cadre de l'enquête. Donc, je vais revenir un petit peu sur cette enquête, ces méthodes et les outils, et puis présenter dans une première partie déjà une forme de typologie des pratiques qu'on a pu repérer. Et puis après, on reviendra sur les enjeux de cette réflexivité, donc la mise en chiffre de soi comme réflexivité, et puis la question de l'introduction du tiers dans le regard sur soi à travers cette mise en chiffre. Donc c'est les trois parties. Alors, pour la description de l'enquête, donc c'est une enquête par entretien auprès d'une quarantaine de personnes. J'ai fait avec une collègue qui est en post-doctorat chez nous. Et donc, on a interrogé des personnes d'âge varié. On a eu, en fait, au démarrage, pas mal de difficultés à trouver des gens qui se quantifiaient. Alors, pour donner une définition un petit peu large des choses, en fait, on avait pris comme idée qu'il fallait que des personnes aient une pratique un peu régulière, c'est-à-dire au moins hebdomadaire et sur au moins quelques mois, de chiffrage d'une activité, poids, enfin de état ou activité, qui concernait plutôt le corps. Donc alimentation, poids, sport, temps passé à faire quelque chose, ce genre de. Et éventuellement, enfin tout type de chiffrage régulier sur eux-mêmes qui était un peu intime. Et comme on a eu du mal à en trouver, on a repéré en fait trois recrutements différents. L'un autour des gens qui gravitaient dans le mouvement du Quantify Self, mais ce sont plutôt des promoteurs d'outils et beaucoup moins des utilisateurs d'outils. Donc, dès qu'il s'est agi de savoir quels usages ils en faisaient réellement, bah, un grand vide. Ah ben non, mais en fait, pas vraiment. Donc, bon, on a quand même trouvé une bonne quinzaine de personnes autour du monde du Quantify Self. Et après, on a recruté des gens qui utilisaient peu les nouvelles technologies, ou pas spécialement, mais qui se quantifiaient quand même. Donc, des gens qui notaient. Sur du papier, ou des gens qui avaient des tableurs Excel tout simplement pour se suivre. Donc on a interrogé une quinzaine de personnes comme ça, qui avaient parfois testé des outils et utilisé des applications. Et puis on a aussi utilisé, alors pour le coup, un autre mode de recrutement qui nous permettait d'avoir des, on va dire, plutôt des geeks, des utilisateurs avancés des nouvelles technologies pour la surveillance de soi. Et là, on les a trouvés surtout autour du domaine du sport, des coureurs à pied, mais qui avaient souvent aussi une balance connectée de type Wisin, je ne sais pas si vous la connaissez, enfin des outils qui vous permettent de récupérer des courbes de poids. Donc on a ces trois modes de recrutement et donc des activités quantifiées qui tournent autour du sport, de la santé, de l'hygiène de vie, parfois même des quantifications, parce que du coup on leur demandait tout ce qui quantifiait, donc pas seulement la quantification principale, on va dire, mais aussi, et donc on a des gens qui quantifient du temps passé à faire le ménage, du temps passé à être auprès de ses enfants, du temps passé à faire des pauses digitales et être déconnecté, du temps passé à être au contraire connecté, mais sans trop savoir, donc des mesures automatiques, et puis dedans il y avait des gens qu'on a interrogés aussi sur le suivi de leurs dépenses, parce que ça faisait partie pour eux des quantifications qu'ils faisaient le plus souvent, des chiffres qu'ils notaient le plus souvent sur eux. Donc cette quarantaine de personnes, donc ils ont été interrogés une à deux heures, et puis on a autant que faire se peut ouvert leurs interfaces, leurs applications, leurs dispositifs de notes, leurs cahiers, etc. pour enrichir l'enquête. Alors, c'est un objet en sociologie assez nouveau. Hein. Personne ne s'était penché sur ces pratiques très intimes. Donc, en allant vite, replacer ce qui nous a influencé dans notre approche, c'est clairement les travaux de Desrosières, mais qui ne portent pas sur des quantifications intimes, mais sur l'émergence de la statistique comme appareil de politique publique. Donc, c'est décalé par rapport à notre sujet, mais c'est lui qui a le plus travaillé sur qu'est-ce que quantifier veut dire, donc comment on passe de quelque chose qui était exprimé avant par des mots à quelque chose qui est exprimé par des nombres. Et pour ça, au centre de l'opération, il y a les conventions. En fait, avant de dire que, par exemple, on peut mesurer l'intelligence à travers un quotient intellectuel, eh bien, il faut tout un tas de conventions pour établir que l'intelligence va se mesurer de cette façon-là. Et une fois que les experts ont statué et que les conventions sont établies, alors les mesures, à proprement parler, peuvent être faites. Mais le temps de la convention n'est pas le temps de la mesure, et la mesure peut être faite de façon personnelle. Les conventions sont beaucoup plus sociales et antérieures aux mesures. Donc il dit quantifier, c'est convenir puis mesurer. Donc ça va nous servir pas mal dans notre approche. Après, dans la sociologie classique, plus proche de la sociologie de l'individu, il y a beaucoup de travaux autour de la réflexivité comme un signe de l'individu postmoderne. Donc là, il y a toute une sociologie du regard sur soi, de l'attention à soi, autour des travaux de Giddens. Donc on peut retrouver dans ces courants-là. On ne s'en est pas tellement servi, mais c'est vrai que ces pratiques s'inscrivent et peuvent être inscrites dans ce courant de la postmodernité, on va dire. Il y a les travaux de Luc Boltanski et Eve Chapello sur le nouvel esprit du capitalisme qui peuvent nous aider à comprendre aussi cette construction ce recours un peu systématique aux objectifs et au regard sur soi pour s'améliorer. Donc là, c'est l'idée dans le nouvel esprit du capitalisme qu'on fonctionne de plus en plus de façon individuelle en se construisant par projet. Hein. Et donc, voilà, on va voir qu'il y a des similitudes avec les approches des gens qui se mesurent. Et puis, un autre pan de recherche consiste à travailler sur les pratiques d'écriture ordinaire. Alors, sur les écritures ordinaires, c'est plutôt un courant de l'anthropologie. C'est plutôt sur les cahiers intimes, le courrier, etc. Là, on a de la littérature là-dessus. Par contre, ce sont des gens qui ne se sont pas du tout penchés sur les pratiques d'écriture en chiffres, puisque, au contraire, c'est plutôt l'intimité écrite, le regard sur soi, le dévoilement de soi-même à soi-même. Mais c'est... Alors, sur les écritures ordinaires, il y a un petit peu les histoires de listes de courses aussi qui ont été étudiées, mais pas la quantification de soi. Alors, pour entrer un peu plus dans les outils, la matière, on a donc aussi bien des gens qui ont utilisé le papier et le crayon, des gens qui ont utilisé le tableau Excel, et puis des tas d'outils. Alors, ils ont sûrement changé depuis. Je m'excuse auprès des geeks qui iraient dans cette salle. Je ne suis pas très à jour sur les différentes applications et autres terminaux, capteurs. Alors, je sais qu'en fait, beaucoup... aujourd'hui, ce sont à l'époque où on a fait, donc en 2011, le travail, il n'y avait pas encore de capteurs individuels séparés vraiment. Il y avait des podomètres et des accéléromètres utilisés dans les téléphones, dans les smartphones. Aujourd'hui, il y a beaucoup de bracelets. Depuis, c'est ça qui a beaucoup changé. À l'époque, il y avait un tout petit capteur qu'on mettait ici, le Fitbit, qui était un podomètre, donc un petit outil qui comptait vos pas, qu'on avait à mettre tous les jours, tout le temps à la ceinture pour qu'il enregistre les pas. Donc, c'était un petit peu contraignant. Aujourd'hui, les bracelets ont l'air un peu moins contraignants que ces outils-là. Donc ces outils, c'est essentiel. Ça va alors je vais les décrire rapidement. Il y en a qui sont très spécialisés et centrés sur une activité, par exemple un outil qui sert à mesurer votre sommeil et uniquement votre sommeil, un autre qui sert à mesurer votre humeur et uniquement votre humeur. Et puis au contraire, il y a des outils, des plateformes qui servent à mesurer tout. Et alors c'est vous qui décidez. Vous pouvez mettre autant d'objectifs que vous voulez, compter, je ne sais pas, une baisse de consommation de cigarettes, plus de temps passé avec vos enfants, moins de temps passé sur Internet, etc. Donc vous mettez des objectifs et puis vous remplissez tous les jours... la quantification, la mesure de l'atteinte de ces objectifs. Donc, c'est plus ou moins spécialisé et c'est plus ou moins déclaratif, puisqu'il y en a qui sont adossés à des capteurs qui vont enregistrer, tracer votre activité. Donc, dans les capteurs, ce qui est intéressant à différencier, c'est qu'il y a des capteurs qui tournent en permanence et qui généralement épuisent les batteries des outils. Et il y a des capteurs dont vous avez lancé une session. Alors là, ça veut dire qu'à un moment, vous prenez une mesure qui va démarrer dans le temps. Et donc, il faut penser à le faire. Et donc, on n'est pas tout à fait dans le même type de mesure que le capteur qui tourne en bruit de fond, en tâche de fond. Et puis, à l'autre bout du scope, il y a les données qui sont rentrées manuellement, le déclaratif. Et souvent, les outils mêlent les deux, en fait. C'est-à-dire que vous avez une partie, par exemple, de l'interface qui... Via votre, par exemple, votre smartphone, vous allez enregistrer une séance de jogging. Et puis, quand vous allez rentrer sur l'interface après, sur votre ordinateur, vous allez rajouter qu'il faisait tel temps ce jour-là, qu'il pleuvait, etc. Donc, vous allez rajouter des choses. Et puis, à côté, pour pouvoir mesurer et mettre en corrélation, vous allez pouvoir rentrer aussi votre alimentation. Mais ça, vous allez le faire manuellement aussi. Donc, là, il y a souvent des dispositifs qui mêlent les deux. Après, les données sont plus ou moins exportables à l'extérieur des outils que vous utilisez. Donc là, alors quand je dis plus ou moins exportables, c'est que c'est souvent les plus geeks qui savent exporter, même si ce n'est pas très simple. Et puis, il y a des outils qui sont vraiment ouverts de façon à ce que les données puissent être retravaillées en dehors des outils qui les produisent. Il y a une autre dimension qui est très importante et qui différencie les différents dispositifs, c'est qu'il y a des outils qui vous permettent de tracer ce que vous avez fait. Donc, typiquement, vous terminez la journée, puis vous notez, aujourd'hui, j'ai mangé, j'ai fumé tant de cigarettes, finalement. Voilà, ça, c'est un peu du rétrospectif. Il y a des outils qui sont très dans l'interaction avec le présent. Par exemple, les outils de mesure de sommeil qui vont servir à vous réveiller au moment opportun par rapport à votre phase de sommeil. Donc ça, c'est un outil qui à un moment, vous alerte. en fait. Donc, dans ce même type d'outil qui est dans l'interaction en temps présent avec votre activité, vous allez avoir les montres qui vous aident à courir à la bonne allure pour pouvoir atteindre votre objectif, qui est par exemple, vous avez rentré, vous faites une course de 10 km, bon, ben, pour ne pas vous essouffler au bout du troisième, là, ils vont vous faire des alertes, ralentissez, maintenant marchez un peu, maintenant recommencez, donc un outil qui est vraiment dans l'interaction. Et puis, il y a d'autres outils qui vous proposent une vision de votre activité qui est plutôt dans le futur. Donc là, vous rentrez un objectif et au lieu de vous dire vous avez perdu tant de poids aujourd'hui, il vous dit il vous reste 1,3 kg à perdre. Donc il regarde toujours vers l'avant. Ça encore, c'est des différences voilà, qui peuvent être utiles dans la confection des outils. Pratiquement tous les outils proposent des représentations, on va dire relativement sophistiquées, c'est-à-dire qui permettent de faire des graphiques, des camemberts, des diagrammes, éventuellement de corréler deux types de mesures qui seraient faites. On va revenir sur les usages de tout ça. Pour l'instant, je vous déploie juste l'univers des possibles. Il y a beaucoup d'outils qui présentent aussi un aspect ludique. Donc, c'est dans le vocabulaire des start-upers du milieu du Quantified Self, c'est vraiment la gamification. C'était vraiment un point fort pour aider à la motivation dans l'usage de ces outils. Donc, c'est alors soit c'est tourné vraiment seulement vers la personne qui se quantifie, donc c'est un badge, vous allez obtenir de plus en plus de points, ou alors par exemple, si vous avez comme objectif de faire beaucoup de courses, on va vous dire que vous avez atteint telle ville, donc on vous projette vos courses sur une carte du monde et puis un jour vous avez fait le tour du monde, donc vous avez gagné le tour du monde, voilà. Et puis après il y a des gamifications qui sont beaucoup plus liées à la communauté attenante, donc sur des plateformes un peu plus ouvertes où il y a des profils d'utilisateurs qui comme vous utilisent la plateforme, là vous allez faire des défis avec eux, donc ça, il y a des dimensions plus sociales. Donc voilà, ça c'est un peu le schéma est très moche, mais c'est en gros il y en a qui sont très privés et d'autres qui ont tendance à mettre la donnée tout de suite dans l'espace plus public, soit sur des réseaux spécifiques propres à l'outil, soit sur les réseaux Twitter, Facebook et compagnie, et qui permettent l'interaction ou non. Et voilà, juste pour vous donner un visuel de ce qui se fait aujourd'hui, c'est beaucoup plus ces capteurs-là qui sont des espèces de bracelets, plus ou moins autonomes en termes de batterie, avec un écran intégré qui peut donner un petit peu d'informations, mais qui généralement renvoie vers une interface, une application, soit sur téléphone, soit sur l'ordinateur. Et là, vous avez tout un enrichissement de ce que les données récupérées par le capteur vont pouvoir faire. Alors, ça, c'était le panorama des outils. Alors, concrètement, ce qu'on a essayé de faire, c'est de trouver des gens qui utilisaient de façon régulière ces outils ou des formes de quantification. Et on a trouvé, en gros, trois principales logiques dans l'usage de ces quantifications. Et on va revenir, là, je les décris rapidement. La première, c'est la surveillance d'un paramètre à risque. Donc là, ici, je vais revenir... Je vais d'abord les dérouler, puis je reviendrai après sur la précision de ce qu'on va mettre derrière. D'autres quantifications sont plutôt des mesures de routinisation. Donc là, on veut changer ou prendre une bonne habitude. Et puis, il y a des mesures qui sont faites dans le cadre d'une recherche d'objectifs. Donc là, on cherche la performance, l'atteinte d'un objectif. Ça, c'est principalement ce qu'on trouve dans les usages réels. C'est-à-dire que par rapport au mouvement du Quantify Self qui promeut plutôt l'idée d'une connaissance de soi par les chiffres, ça, c'est un usage très, très peu rencontré. En réalité, c'est des démarches artistiques, de self-tracking, proche du self-tracking, hein, on en trouve, mais ce n'est pas des démarches communes. Alors, il y a quelques personnes qui, effectivement, ont mis des puces et se suivent par rapport, par exemple, à leur activité sur ordinateur, mais ils ne font jamais rien des chiffres, donc il y a une sorte de forme d'auto-archivage. On a rencontré deux personnes qui faisaient ça, effectivement, mais sans utilisation derrière. Et la voie d'exploration de soi avec un traçage un peu tous azimuts, une quantification de différents paramètres pour mieux se connaître, ça, par contre, on n'a pas rencontré. Donc, c'est quelque chose qui est très, très mineur. Ce qu'on voit et qu'on a peu étudié, parce que nous, on cherchait des usages un peu stabilisés dans le temps, c'est qu'il y a beaucoup d'usages qui sont faits en mode diagnostic. C'est-à-dire, par exemple, et c'est vrai aussi pour les traceurs de, par exemple, de consommation énergétique au foyer, on utilise tout d'un coup une application pour faire le point sur mon sommeil. Typiquement, les applications sur le sommeil, au bout d'une semaine, bon, ben, ça y est, on sait à peu près comment on dort. À ce moment-là de l'enquête, on ne trouvait pas d'usage qui se poursuivaient dans le temps. Donc les gens ont un effet de révélation, hein, le cycle c'est comme ça, ça pose une sorte de diagnostic, et puis ensuite on oublie et on ne le fait plus. Voilà. Donc ça c'est un mode du coup qu'on n'a pas gardé, mais qui effectivement est assez courant, le mode diagnostic. Alors la mesure de surveillance, je vais les décliner toutes les trois. La mesure de surveillance, alors on a appelé comme ça en fait toutes les pratiques qui étaient liées à l'idée pour des personnes de mesurer un état par rapport à un risque. Donc c'est souvent des gens qui sont soit en surpoids fort et qui donc vraiment vont passer vont passer un seuil qui va les mettre en danger. Ça va être des gens qui ont des taux de cholestérol aussi élevés et qui risquent de passer à une prise médicamenteuse avec des effets secondaires difficiles. Donc voilà, des gens pour qui il y a un horizon dangereux, une limite à ne pas franchir. C'est aussi le cas des gens qui sont dans la surveillance de ne pas tomber dans le rouge au niveau de leurs dépenses. Ils sont dans la même logique. Donc ils ont un seuil et ils mesurent le fait d'être en dessous de ce seuil. Et à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est que en fait, la quantification, elle ne vise pas forcément directement une action. La première chose, c'est savoir où on en est. Donc la mesure en tant que telle, elle a un effet, c'est-à-dire que les gens sont vraiment attentifs au moment à la prise de mesure, et ouf, ils sont en dessous. Voilà, après, effectivement, s'il s'avère qu'ils sont un petit peu pas très en dessous, ils vont se tourner vers l'action. Mais l'action vient en second. La mesure, elle n'est pas faite pour l'action. La mesure, elle est faite pour surveiller où on en est par rapport à un seuil. Donc ici, la régularité, elle est importante. C'est-à-dire que même quand, par exemple, des gens qui sont en surpoids et qui savent très bien, parce qu'ils sont en déplacement professionnel, qu'ils sont au restaurant tous les soirs, ils vont quand même faire attention et continuer à surveiller. Même s'ils n'y peuvent rien, ils savent très bien qu'il va y avoir une période difficile. Des gens, par exemple, qui sont... Alors, ces seuils ne sont parfois pas des seuils au sens établis par une norme médicale. Ça peut être quelqu'un qui ne se supporte pas, par exemple, au-delà de 60 kilos, peut très bien être dans cette forme de mesure de soi, être en permanence en train de regarder qu'effectivement, elle est à 58, 58,5, 58, 57,8, et en fait, de regarder pendant des mois et des mois une courbe qui ne bouge quasiment pas. Donc, ce n'est pas... Par rapport à la mesure de performance, on va voir, ce n'est pas des gens qui cherchent à avoir une évolution ou une performance quelconque, même si la courbe ne bouge pas, elle est intéressante pour eux. Et dans ce type de mesure-là, c'est pas la joie. Hein, donc le partage, c'est pas quelque chose c'est la gamification, le partage, c'est pas quelque chose de très évident. C'est des gens qui postent et publient, mais de façon anonyme. Et rarement sur leur mesure, la mesure qu'ils ont faite eux-mêmes d'eux-mêmes, ils s'entraident surtout autour de, par exemple, des astuces pour « je dois partir à l'étranger, comment je sais qu'est-ce qui est, quelle nourriture je peux prendre par rapport à mon cholestérol », ce genre d'entraide-là. Hein, mais ce n'est pas tellement des gens qui échangent sur leurs données personnelles. Encore une fois, on parle de quantifications qui sont faites par les gens et pas par les médecins. Sur les forums de type Doctissimo, on a énormément de gens qui échangent autour de leurs données personnelles, mais c'est des mesures qui sont faites par les médecins. Donc c'est assez différent. On va peut-être y revenir. Donc la mesure de surveillance, voilà, typiquement, c'est ne pas être dans le rouge, quoi. Donc les courbes peuvent être assez plates. Voilà, là, c'est en haut à gauche, c'est des gens qui mesurent leur argent. Là, c'est une courbe... c'est une ligne de poids de quelqu'un qui est assez plat, quoi. Enfin, voilà. La mesure de régularité, c'est très différent. Elle, au contraire, elle vise l'action. C'est-à-dire, on se quantifie parce qu'on veut agir. On veut faire une action, on veut arrêter la cigarette, on veut aller à la piscine toutes les semaines, on veut prendre une bonne habitude. Et ça peut être aussi, par exemple, dans le sport, le cas pour des activités, typiquement aller à la piscine trois fois par semaine pour un grand coureur, ça peut être une mesure non pas de performance, hein, il ne veut pas avoir des performances à la piscine, mais par contre il veut être régulier, il veut y aller trois fois par semaine. Donc typiquement c'est ce type de profil. Et là, en fait, c'est maintenir la motivation. Le chiffre, la mesure, elle n'est pas liée, on n'a pas un ouf, on est en dessous du seuil, comme tout à l'heure dans la mesure de surveillance. On maintient la motivation parce qu'on regarde tous les jours la même chose. Et il y a l'idée de des fois, simplement, même on est aux limites de la quantification parce que les calculs ne sont même pas faits. C'est-à-dire que ce qu'on compte, on ne compte pas vraiment, on regarde qu'il y a effectivement 5 carreaux rouges. Et c'est presque plus compté, en fait. Ce qui compte, c'est la continuité. Ici, le partage, il est possible, c'est-à-dire qu'il y a des formes d'usage des fonctions de partage qu'il peut y avoir sur les outils, mais alors pas de façon large, parce que les gens se disent « je ne vais pas polluer la terre entière avec le fait que j'ai été à la piscine mardi ». Par contre, ma bonne copine avec qui j'ai pris cette bonne résolution, on peut s'en parler. Donc, il y a des échanges, mais dans des formes plutôt de cercles proches, plutôt dans du prétexte à la convivialité que... de la vraie publicité. Donc typiquement pour ce type d'usage de quantification, on va avoir, alors il y a des plateformes comme par exemple nageur.com où vous pouvez rentrer toutes vos séances de piscine. Mais c'est typiquement des mesures qui sont faites souvent sur des petits carnets, hein, comme celui qui est là en haut à gauche, et qui prennent des formes quasi calendaires en fait. On note sur son agenda. Donc beaucoup des gens qui sont dans ces formes de quantification-là en fait utilisent leur agenda papier ou leur agenda électronique pour rajouter la petite case. Alors la mesure de performance, là, elle est plus, plus connue et plus attendue, c'est celle du sport, en fait, hein, c'est essentiellement, mais on va voir pas seulement. En fait, là, ça, c'est une mesure qui sert à contrôler l'efficacité d'un effort spécifique. Donc là, contrairement à tout à l'heure, si on est en déplacement et qu'on sait qu'on va aller au restaurant tous les jours, on arrête de mesurer, c'est pas la peine. Hein, voilà. Donc là, on mesure que quand on est dans l'action et qu'on sait que ça va... avoir un effet. Et donc là, c'est vraiment fait pour à la fois se motiver, comme dans la mesure de routinisation, mais motivation et amélioration. Donc là, au contraire, la manipulation des chiffres, il y a un vrai plaisir. Il y a, parce que dans, alors je disais tout à l'heure, ce qui nous intéressait, c'est les pratiques de quantification, mais ce n'est pas seulement le moment de la mesure, c'est tout ce qu'on fait depuis l'archivage, les modes de calcul jusqu'au partage éventuellement avec d'autres. Et ici, il y a effectivement beaucoup plus de plaisir à manipuler ces chiffres. On va voir les limites quand même, hein, mais... et là, on peut effectivement regarder avant, après, se fixer des objectifs à moyen, long terme. Le partage est beaucoup plus facile, y compris parce qu'il y a une vraie émulation à parler des outils eux-mêmes de mesure. Hein, là, dans les cercles de coureurs, aujourd'hui, y compris de complètement amateurs, hein, qui s'entraînent pour faire des courses de 10 km parce qu'ils ont repris le sport à 40 ans, il y a un vrai plaisir à parler de ces outils de mesure, à les comparer et à comparer éventuellement les performances, mais c'est parfois presque secondaire par rapport à parler des mesures elles-mêmes. Alors, dans le type d'outils, il y a des... Alors, encore une fois, il y a des interfaces dédiées. C'est souvent connecté à des montres de sport, à des marques de sport. Nike a fait une interface qui est très utilisée. Mais il y a Runkeeper, enfin, il y en a plein. Mais ça peut être très basique. En haut à gauche, là, je vous ai mis le cas d'une femme qui s'était mise à la course à pied. Et au début, elle rentrait en vert ses temps de marche et en rose ses temps de course. Et puis, on voit jour après jour que le rose est de plus en plus continu. Voilà, parce qu'elle arrive à courir de plus en plus, plusieurs minutes de suite, plus longtemps, quoi. Donc, c'était des choses très basiques, mais là, on voit qu'il y a vraiment la quantification d'un progrès. Donc, l'évolution des records, là, c'est quelqu'un qui trace ses 10 km d'année en année. Et on voit qu'il est parti de son... Je sais pas, en 2010, il courait en une heure ses 10 km. Et là, il arrive à 43 minutes 40, voilà. Donc là, c'est vraiment... j'allais dire assez classique sur le sport, on peut voir des usages de ce type de type performance sur la perte de poids. C'est typique des gens qui passent en mode régime et qui se fixent un objectif très, très fort. Je veux perdre 10 kilos en 5 mois. Et là, on est dans des objectifs de type performance, dans des quantifications de type performance et où les jeunes femmes qu'on a interrogées ont toutes les mêmes caractéristiques, s'arrêtent de quantifier si elles savent que de toute façon, elles vont être, c'est les fêtes par exemple, ben, pendant les fêtes, non, on arrête la quantification, ça ne sert à rien, parce qu'elles sont dans l'esprit de performance et pas de surveillance. Donc c'est pas seulement le sport, on peut imaginer des logiques d'usage de la quantification personnelle hors sport qui soient de type performance. Mais disons que tout le discours du Quantify Self promeut un petit peu d'ailleurs cette transformation-là. Hein. C'est-à-dire qu'eux, ils disent un peu, avec les outils, les capteurs, etc., on va pouvoir se fixer des objectifs et les atteindre plus facilement. Donc eux, ils rentrent un peu l'idée qu'on a une vie quotidienne, un rapport à soi qui va rentrer dans cette logique de la performance. Or, nous, ce qu'on voit, c'est que, pas tellement, les trois quarts des gens restent dans d'autres types de logiques et la performance reste plutôt cantonnée au sport. Et en fait, bon, les usages dans le sport peuvent s'expliquer assez facilement aussi parce que, en fait, si c'est développé, c'est les sports individuels qui se passent hors des temps collectifs. Donc, typiquement, la course à pied, les outils sont beaucoup utilisés parce que les gens font communauté en parlant en dehors du moment de leur course, à travers l'usage de ces outils, de leur pratique, avec des pairs qui font la même chose qu'eux, mais à distance, sur des fils Facebook, sur des plateformes, etc. Donc ça va bien avec cette idée du sport qui s'individualise. Mais sinon, ce sont des pratiques qui sont très classiques, on va dire, dans le coaching sportif en salle, traditionnellement. Donc voilà, et ce n'est pas une typologie des personnes, encore une fois, c'est des pratiques, c'est-à-dire qu'une même personne peut très bien cumuler une quantification de type routinière sur le vélo, par exemple, vouloir quantifier le fait qu'il va bien régulièrement au travail à vélo, et puis par ailleurs être très performant et dans une logique de performance sur le fait de s'être remis au triathlon ou à je ne sais pas quel sport. Alors, j'en viens à la deuxième partie. La place des chiffres dans la construction du regard sur soi, en fait, l'effet de révélation que donnent les mesures est assez limité. On était surpris de ça. Nous, on s'attendait à ce que les gens nous disent qui regardaient attentivement la mesure au moment d'être prise. Et en réalité, non. La plupart, ils savent très bien. Ils courent toujours la même chose. C'est-à-dire très souvent, par exemple, les sportifs se mettent à faire des 10 km. Bon, ils vont courir 10 km. Ils savent très bien à peu près combien ils vont mettre. En combien de temps ils vont faire leurs 10 km. Donc ils n'ont pas un effet, ils ne sont pas sur le résultat de leur course comme ça, en train de se dire « Ah, qu'est-ce que ça va être ?» Et c'est pareil sur la prise de poids. En réalité, on est rarement dans cet effet de surprise, de la révélation par les chiffres. On ne savait pas que... Il y a un peu d'effet comme ça sur le diagnostic qu'on a un peu évacué de l'enquête. Mais sur les pratiques routinières, non. L'effet de révélation n'est pas là. L'analyse de données, elle est aussi très restreinte. Dans le discours qui accompagne la surveillance de soi par les chiffres, la connaissance de soi par les chiffres, il y a beaucoup de « on va faire des corrélations pour s'améliorer, baisser telle consommation pour pouvoir être mieux, etc. » En réalité, les gens corrèlent rien, quasiment rien. Ils n'utilisent certainement pas les traceurs et les capteurs pour le faire. Eux, ils le savent, ils ont de tête, ils savent très bien que s'ils ont une période de travail très forte, que par ailleurs c'est les fêtes, leur temps en course risque d'être un peu moins bon. Ils le savent dans leur tête, mais ils n'ont pas besoin, ils ne tracent pas les outils pour avoir des effets de corrélation inattendus comme ça a été beaucoup dit par exemple autour du mouvement du Quantified Self qu'on allait apprendre des choses à travers ces corrélations. En réalité, les gens ne les font pas. Les formes de visualisation qui sont les plus utilisées, c'est la calendaire. C'est effectivement ce qui est très visible, c'est que quand on a enregistré régulièrement, par exemple, là c'est quelqu'un qui enregistre à la fois ses courses et puis ses moments de vélo. Bon, voilà, il dit, si j'ai pas fait de vélo, il y a un grand blanc, là c'est en haut à droite, il y a 4-5 jours, pendant 4-5 jours, il prend pas son vélo pour rien faire, et bien il le voit. Voilà. Donc c'est l'effet le plus... recherché à travers ces traces, ce n'est pas des calculs compliqués, c'est cet effet visuel de voir le trou. Plus rarement, mais on le trouve quand même, mais c'était plutôt l'exception qui confirme la règle, on a quelqu'un ici qui va additionner tous les kilomètres qu'il a parcourus. C'est aussi quelqu'un qui s'entraîne pour des marathons et de l'ultra-trail aussi, des courses... assez longue, et donc il avait décidé, c'était 2011, il avait comme objectif de faire 2011 km en 2011, et donc il cumulait, ça fait partie de ces exemples de gamification, mais lui il cumulait tout type de courses, du coup il cumulait ce qu'il faisait en trail, en course urbaine, etc. Bon, et effectivement certaines personnes, enfin il y a des interfaces qui proposent comme ça une cumulation de... c'est ce que je racontais tout à l'heure, le fait de pouvoir faire le parcours, le tour du monde par exemple. Mais c'est des calculs très sommaires, et parce qu'il y a une unité qui est commune ici, qui est le kilomètre. Ce qu'on veut dire par là derrière, c'est que ce n'est pas tant une vision objective de soi qu'on cherche à construire avec des effets rationnels un peu glaçants, c'est surtout construire un regard bienveillant sur soi en faisant ses quantifications personnelles. Compter ce qui va nous permettre de nous améliorer, ce qui va nous faire plaisir, mais pas tellement l'inverse. Par exemple, cette sportive Viviane qui nous racontait, à un moment, ma neurologue voulait que je compte mes migraines, mais ça, il n'en était pas question, je ne les compte pas, comme ça ne compte pas. En fait, Et c'est aussi le discours d'ailleurs d'Emmanuel Gaden, qui est le promoteur du Quantify Self en France, qui dit les minutes sur le canapé, on ne les compte pas. Ce n'est pas ça qu'il faut compter. Ce qu'il faut compter, c'est ce qui va nous faire plaisir et nous montrer qu'on est bien, qu'on est bon et qu'on va avancer. Et alors typiquement, c'est le même d'ailleurs que je vous ai montré, qui calculait ses kilomètres, la totalité des kilomètres parcourus sur l'année. Voilà, on voit bien, c'est pour se donner une très belle image, qu'il y a cette addition, 5 marathons, 3 ultras, un titre de 100 bornards, 2538 kilomètres en course et entraînement, enfin... Et surtout, le plaisir d'être moi, voilà, c'est écrit noir sur blanc ici par cette interviewée qui le poste sur Facebook en plus. Donc on est bien dans la bienveillance. Alors on dit souvent aussi c'est les chiffres contre les mots. Bon, alors pas du tout. Pareil, les appuis pour se connaître et essayer d'avancer vers ses objectifs, ils sont autant construits à travers des chiffres qu'à travers des prises plus subjectives. Et les gens ont souvent... aime bien pouvoir rajouter un commentaire au-delà du chiffre dans les interfaces qu'ils utilisent, triche un peu avec les chiffres quand il y a un chiffre qui n'est pas très probable parce qu'en fait l'instrument de mesure sans doute n'était pas bien, il l'enlève. Quand finalement, ah oui mais sur ce jogging-là j'avais été interrompue par un coup de fil, donc ça c'est pas mon vrai temps parce qu'en fait ça compte les 10 minutes où je me suis interrompue, donc je corrige le tir. Enfin, toutes ces petites manipulations et nourrissent ce regard et cette quantification personnelle. Elle n'est pas faite du tout dans une forme d'objectivité qui rendrait non pertinent les appuis subjectifs, bien au contraire. Donc tout ce qui est ressenti, douleur, contexte, etc. peuvent être ramenés dans les fichiers et dans les données. Et alors, aussi souvent, on parle de quantification personnelle, on a l'impression que les gens vont avoir cette espèce de prise de recul. En fait, c'est presque tout l'inverse. L'idée ici, c'est de zoomer, en fait. C'est pas de prendre du recul, c'est de regarder de très près une partie de soi, de se concentrer sur quelque chose, et du coup, de voir que ça bouge. Je prends l'exemple typiquement des personnes qui regardent leur poids, qui sont l'anxiété de prendre un peu trop de poids ou la volonté d'en perdre un petit peu. Il y a des compulsifs qui vont deux fois, trois fois par jour sur la balance. Ils se savent complètement irrationnels. Par contre, ça crée des dynamiques. C'est-à-dire que c'est des prises pour agir. Ah, ce matin, c'est moins de 100 grammes. Il faut absolument que j'aille dans l'autre sens. Donc, c'est une prise, en fait. C'est une focalisation. Mais ça ressemblait... cette façon de faire récit, finalement, de créer une dynamique. Parce que à la place des mots, par exemple, pour les gens qui quantifient leur alimentation, si je mets camembert, salade, je ne sais pas quoi, ça ne me dit rien. Par contre, si j'ai une espèce de total calorifique qui fait plus, ou moins, plus, alors là, je vais avoir une petite courbe. Et là, j'ai une prise. Et en fait, c'est cette dynamique qui est intéressante, cette construction de la série, qui fait la motivation et qui fait, je me flatte ce matin, je suis contente, ou au contraire, ça ne va pas du tout ce matin, ça me met en rogne, j'ai gagné 200 grammes, ça ne va pas du tout, j'ai pris, pas gagné dans ces cas-là. Donc c'est cette focalisation, en fait, c'est cette loupe, et ça a beau, on a beau savoir, et par exemple, les gens qui courent avec des montres qui sont très équipées le disent souvent, ils ont beau savoir que c'est ridicule d'avoir les yeux rivés à la montre, ils ne peuvent pas s'empêcher de regarder comment le chiffre bouge. Alors qu'ils savent qu'en fait, ça n'a pas de sens. Et voilà. Donc là, c'est vraiment cette focalisation qui est... on voudrait insister sur le fait que ce n'est pas une prise de recul et de connaissance objective par les chiffres, mais plutôt une attention bienveillante qui dynamise les gens. Et voilà l'efficacité, en quelque sorte, de cette réflexivité. Alors, ce n'est pas étonnant qu'on trouve... dans les enquêtés, les gens qui utilisent beaucoup la quantification, je parlais tout à l'heure des gens qui quantifiaient leurs activités, temps passé à faire le ménage, temps passé à faire à être sur l'ordinateur, à être sur Internet. On trouve quand même beaucoup de gens qui sont auto-entrepreneurs, indépendants, freelance, etc. et qui ont pas de repère finalement institutionnel fixe d'arriver à telle heure au travail, d'en repartir à telle heure. Et donc, ils sont effectivement beaucoup plus adeptes de cette forme de pointage volontaire de leur temps, de leurs activités. Et effectivement, ils sont dans une forme de... Enfin, ça met en ordre, en quelque sorte. Ça met de l'ordre dans leur dans leur vie parce qu'ils voient les temps trop longs. Ils voient, par exemple, Alex, là, qui, alors lui, par exemple, il comptait le nombre de mots écrits pour sa thèse, il comptait le nombre de bières parce qu'il voulait essayer de réduire un peu. Et là, effectivement, ils expliquaient bien que... Il y a une force de la chaîne, il l'explique comme ça, ou un esthétisme de la courbe, ça revient à peu près au même, qui fait qu'on veut absolument aligner les choses droites et voilà, et pas prendre trois bières alors que ça fait un mois qu'on a réussi à en prendre qu'une. Enfin, c'est vraiment ce type de... Ce pointage sur soi, bon, là, ça fait vraiment écho à effectivement, ce que Boltanski décrit dans le Nouvel Esprit du Capitalisme, sur la nécessité de se prendre en charge, d'être soi-même son capital auto-surveillé, voilà. Ça va vraiment dans ce sens-là. Alors, pour finir, la troisième partie discute plus de la question du partage de ces données. Alors, je l'ai un peu dit en les présentant, mais on se doute que les trois formes de quantification n'ont pas le même rapport à cette question du regard des autres. Elles sont plus ou moins intimes. Dans la surveillance, l'enjeu, c'est surtout d'anonymiser, en fait, parce que les gens peuvent très bien vouloir parler des choses, même d'une petite... les gens qui sont très anxiogènes sur leur poids, ils peuvent très bien, sans qu'il y ait des réels enjeux de santé, ils peuvent très bien vouloir en parler. Par contre, pas forcément de façon... même à leurs proches, à leur mari, elles n'aiment pas tellement en parler. Donc, c'est pas... voilà, c'est en parler, mais avec des inconnus et de façon anonyme. Et souvent, ce qu'on a vu, c'est qu'ils en parlaient sur des forums. Plutôt que des réseaux sociaux. Les mesures de routinisation, là, le risque, ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment de polluer les autres avec ça. Hein, j'ai couru 5 km et j'ai mis une heure à le faire. Bon. Donc là vraiment, on veut bien partager, mais avec des très proches et en ciblant. Donc l'idée, c'est vraiment... Alors qu'au contraire, dans la performance, là, il y a beaucoup plus un usage tous azimuts des formes de partage sur des espaces personnels comme les blogs, des espaces plus publics de partage, de conversation autour d'expertise, autour des forums, les réseaux spécialisés, les réseaux généralistes et généralement les mêmes interviewés utilisent voilà, 3-4 modes pour discuter de leurs courses, de leur triathlon, etc. Et ils publicisent. Alors, il faut voir qu'ils ne publient pas exactement de la même façon, c'est-à-dire que sur les blogs et les profils, ben, ce sont des échanges très polissés, hein, où quand quelqu'un poste qu'il a eu tel résultat à telle course, c'est félicitations, encouragements. Par contre, sur les forums, on peut très bien avoir des reprises beaucoup plus polémiques sur il y a des gens qui font tel type d'entraînement, c'est ridicule, ils vont droit au claquage, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est pas ça qu'il faut dire. Donc là, on est beaucoup plus dans la dimension de la construction du sens plus collectif, en fait, de la mesure, alors que sur les réseaux, on est beaucoup plus sur la relation interpersonnelle de félicitations et d'encouragement. Et il y a des échanges, effectivement, aussi compétitifs, mais là, ils sont plutôt sur les espaces de conversation des sites spécialisés. Sur Nike, par exemple, il y a des défis entre coureurs, et donc là, il y a effectivement une émulation, et je vais être plus fort que lui, parce que je vais courir plus cette semaine, et un effet d'entraînement comme ça, compétitif. Mais il reste plutôt cantonné aux espaces spécialisés. Alors, par rapport à... Je reviens un tout petit peu sur la question de la... ce que Alain Desrosières disait, quantifier, c'est convenir, puis mesurer. En fait, dans les quantifications personnelles qu'on a vues, il y a une grande part de ces gestes, de ces pratiques qui sont adossées aux normes construites par les institutions de santé, de sport, etc. Donc en fait, on reprend et on les personnalise un petit peu, mais les indices de masse corporelle, et c'est ça qui nous oriente dans l'action et dans les pratiques. La majeure partie des quantifications personnelles qu'on a vues ne sont pas faites par des experts, hein, c'est bien des quantifications personnelles au sens où les mesures sont faites par les particuliers dans leur vie privée, mais elles sont adossées à des normes et à des évaluations qui sont, elles, convenues dans des cercles institutionnels. Et c'est particulièrement vrai de la performance, hein, où les gens, alors ils ont un besoin de se rencontrer entre coureurs de même niveau, donc il y a un moment où ils vont dire, bon alors, quand on a plutôt 30 ans, qu'on a plutôt tel poids, qu'est-ce que c'est une bonne performance? Et donc là, ils vont regarder un petit peu par rapport, et très souvent, ils retournent dans ces discussions-là sur, bon alors, qu'est-ce qui se fait à la Fédé en gros. Comment on rentre voilà, je vous ai mis cet extrait de conversation sur un forum qui s'appelle Course à pied du net. À partir de quand peut-on dire qu'on est très bon sur 10 km? Bah, tout est relatif, certains vont dire chacun à sa référence, mais bon, ça n'empêche. Déjà, en senior, et là on reprend une catégorie qui est utilisée par les institutions, il faut faire moins de 34 minutes pour se qualifier au championnat. Bon, voilà. Et on reprend voilà, la référence commune. Hein. Et en fait, les gens sont rarement en dehors de ça. C'est moins vrai des mesures de routinisation. Parce que là, effectivement, les gens viennent à mesurer des choses sur lesquelles on n'a pas, par exemple, combien de mots faut-il écrire quand on est en thèse en première année pour être un bon thésard? Je ne sais pas. Et je ne pense pas qu'il y ait encore de convention qui l'ait dit. Mais tout l'enjeu, il est là, en fait. C'est de savoir, est-ce qu'il va y avoir une multiplication d'espaces de convention, de construction de cette convention-là, pour que les chiffres des uns soient commensurables, comparables avec ceux des autres? Et est-ce qu'il y a besoin de le faire? Et dans quel domaine? Et en fait, dans les quantifications personnelles qu'on a observées, les gens ne sont pas dans une grande attente de ça, il faut le dire. C'est-à-dire qu'au contraire, ils en vont même à personnaliser les unités de mesure ou à vouloir aller plutôt dans ce sens-là. Ils codent beaucoup ce qu'ils font, c'est-à-dire que souvent, dans leur petit calepin, ils n'écrivent pas, par exemple, un verre d'alcool. Ils écrivent V et personne ne voit que c'est de l'alcool. Enfin, et donc, dans leur calepin en ligne, c'est un peu la même chose. Il y a beaucoup de choses qui sont codées, notamment l'alcool. Hein, ça fait partie des choses plus que la cigarette. Mais sinon, voilà. Après, même dans les unités de mesure, il y a un utilisateur de la Wifi qui disait « Moi, je détruis 3 verres de coca par jour. » Donc, c'est un comptage calorifique. En réalité, c'est une... Si chacun a son équivalence pour dire « moi, c'est des ananas, toi, c'est des Coca-Cola », plus personne ne sait comparer la performance de l'un avec celle de l'autre. Et j'allais dire, eux, ça ne les dérange pas. Hein. Ils ne cherchent pas spécialement des références. Par contre, on peut se demander, on a interrogé un tout petit peu les gens qui construisent des outils, ils ont beaucoup de mal à discuter de ça, parce que c'est pareil, pour eux, ce n'est pas à eux de dire... Par exemple, sur le podomètre, qui est un truc... Je l'ai oublié d'ailleurs, le bon nombre de pas par jour, c'est peut-être 10 000, je ne sais plus. 10 000 ? 8 000 ? 10 000, oui, c'est ça, 10 000. Bon. Mais ça, ils n'aiment pas communiquer là-dessus, parce que personne ne l'a fixé. C'est comme l'histoire des 5 fruits et légumes par jour. Bon, ça a été fixé, mais voilà, au prix de quelle polémique ? Il y a un connaisseur. Et ici, en fait, on fait... Les gens qui fabriquent ces petits outils et qui disent que la fleur va grandir ou au contraire flétrir à partir de tel seuil et telle barre, ils sont en train de faire du 5 fruits et légumes par jour, tout seuls dans leur coin, en permanence. Les utilisateurs de ces outils s'en moquent un petit peu, hein, mais c'est vrai que du point de vue du débat de société, voilà, ça pose... et non seulement ils font effectivement du 5 fruits et légumes dans leur coin, mais en plus après... Ils refont basculer des mesures, parce que les mesures sont faites sans convention, ils refont basculer les résultats dans l'espace public. Par exemple, Nike, ou surtout le WeThings, là, les gens qui font une start-up française qui fait une balance connectée, qui marche assez bien aux États-Unis, elle renvoie après des visualisations, data-vis très, très jolies, où on voit que les femmes, au lendemain de Thanksgiving, prennent en moyenne 7 kilos, alors que les femmes françaises, au lendemain de Noël, prennent en moyenne 6,5, ou je ne sais plus du tout le chiffre. Hein, mais voilà. Et donc ces chiffres et ces mesures, ces moyennes, émergent du fait que les mesures sont faites sans qu'il y ait jamais de convention qui dise le sens de ça, en réalité. Donc là, il y a un débat, hein, en fait, qui est ouvert. Donc je vais m'arrêter là, juste pour reprendre par rapport à l'ensemble de la présentation. Ce qu'on voit bien, c'est que donc, c'est des pratiques intimes qui basculent vers des pratiques exposées en ligne, pour partie d'entre elles, pour partie seulement parce que beaucoup de gens continuent à faire les choses tout à fait dans leur coin et sans avoir besoin de cette dimension de la publicisation, mais que ça, ce transfert a un impact assez différent selon qu'on considère les trois types de mesures dont on a parlé. C'est vrai qu'autour des mesures de surveillance, ce qu'il faudra, je pense, surtout suivre, c'est des questions de jeu d'acteur, en fait, parce que là, pour le coup, encore une fois, les taux, les seuils et les mesures qui sont prises sont faites en fonction des références qui existent dans le domaine de la santé. Par contre, comment les professionnels voient ces types de coaching personnel, quelle est la place du coach par rapport au médecin, etc. Donc là, il va y avoir effectivement des débats autour de ça et comment la profession va accueillir ces outils. Et puis, il y a aussi des dimensions importantes autour des procédures automatiques, parce qu'on va vers l'automatisation dans ces capteurs. Et donc, c'est toute la construction de ces alertes, des seuils. Bon, ça, c'est des choses qu'on va peut-être revoir dans l'intervention qui va suivre. Il y aura un très beau sujet pour cette question du passage de la mesure de soi personnelle vers la mesure adossée à des experts. Ce sera à faire un suivi sur ce qui se passe autour des forums Doctissimo sur les femmes enceintes, qui sont vraiment à cheval entre ce monde de la santé, du bien-être, mais pas vraiment de la santé. Et là, il y a un beau sujet sur la façon dont elles manipulent leurs données et quelles données elles manipulent. Enfin, je pense qu'il y a un beau sujet à faire. Du côté de la performance, là, je l'ai un peu dit tout à l'heure, en fait, c'est surtout sur les sports solitaires que les choses se développent, parce que ça redonne une dimension collective à des pratiques individualistes, en quelque sorte, hein, et qu'il y a effectivement beaucoup de chiffres qui émergent dans les blogs de coureurs, etc. Ils sont nourris de leurs données, mais en réalité, ces données ne sont lues, et les gens ne réagissent à ces données que s'il y a un paratexte de ces données. En soi, elles ne font pas tellement discuter. Et c'est d'ailleurs très sur l'adossement les chiffres qui font parler, qui font rebondir les fils de conversation dans le domaine du sport, ce sont les chiffres officiels. C'est-à-dire que les gens qui publient leurs entraînements toute l'année, généralement, on répond « Ah, salut, super », mais on ne reprend pas le chiffre. Alors que le chiffre officiel, celui des 10 km véritablement courus le jour des 10 km du 14e arrondissement à Paris, estampillé, là, il va être discuté. Ah, t'as fait 34,3, c'est mieux que... voilà. Et ce sont ces chiffres officiels qui sont discutés et pas les chiffres personnels. Et voilà. C'est vrai aussi dans le domaine de cette performance-là. Et donc, tous ces chiffres donc, qui alimentent les récits sur les blogs de « j'ai fait ma course », etc., ne sont discutés que s'il y a des photos, que s'il y a une mise en récit, etc. Sinon, ils sont stockés en fait en ligne. C'est des formes de stockage. Il y a un des interviewés qui nous disait, moi, mon blog, en fait, c'est un auto-archivage. Donc, il a un endroit où il y a effectivement toutes ces données, mais il n'espère absolument pas avoir zéro écho dessus, quoi. Et alors, par contre, autour des mesures de routinisation, là, il y a vraiment des choses qui sont en tension et qui bougent autour de cette question de la standardisation des activités privées. Et... qui sont sans doute à surveiller pour clore par ce bon mot. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup. Merci.